le rôle de Jacob et le rôle de Esav, où il a deux noms d'ailleurs en même temps, son propre nom Jacob et le nom d'Israël par substitution avec celui de Esav. Vous voyez un peu la difficulté dans laquelle s'est trouvé Jacob, mais en tout cas, sa femme véritable, c'est Rachel, et Rachel était stérile. Rachel ne devait pas avoir d'enfant. Et il a fallu de nouveau la prière de Jacob pour avoir des enfants. En d'autres termes, le peuple juif est né de trois mères stériles. Qui ne devait pas normalement.
C'est une anomalie.
C'est-à-dire, voilà, c'est une anomalie tant qu'on se constitue l'identité juive, ou l'histoire juive, ou le destin juif dans l'ordre naturel, on doit disparaître. Voilà. Mais ce que nous devons être, c'est au-delà du monde naturel. Il faut que tous les jours, on sorte, tous les jours, toutes les secondes, du monde de l'Ipagninout, du monde de la loi naturelle, du monde de la loi astrale, de Terminis, pour que l'on puisse vivre d'une vie spécifique, naturelle à Israël. Ça, le moral, l'explique. C'est la vie des mitzvot, qui est tout à fait naturelle à Israël, et il explique qu'il y a une sorte de loi naturelle des miracles. Nous vivons dans la loi naturelle des miracles, qui est une nature, une deuxième nature pour Israël, et que personne à l'extérieur d'Israël ne peut comprendre. Si bien qu'il y a deux manières de percevoir le judaïsme, il y a la manière extérieure de pouvoir le judaïsme, de le voir, qui est celui qui est perçu dans le monde astral et qui est voué à la disparition, et il y a une perception intérieure que nous avons, nous, du judaïsme, qui est que nous sommes au-delà du monde naturel et que nous devons exister. Je n'ai pas dit cette remarque pour suivre simplement ce qui a été dit aujourd'hui, c'est pour vous essayer de donner une autre explication du sacrifice d'Isaac, j'y reviens. Si Rav Dessler insiste énormément sur cette idée de la transfiguration de la mort, sur cette idée du sacrifice de toutes les illusions, il en parle longuement. S'il dit que la vie qui nous entoure, etc., les engagements différents qui sont les illusions, si on arrive à faire le sacrifice des illusions, et qui ne sont entretenus que par l'idée de la mort, qu'est-ce qu'il disait l'autre philosophe? Que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et qu'il n'y a que cette préoccupation que l'idée de la mort, eh bien, on doit dépasser les idées des déterminismes provoqués par l'idée de la mort pour vivre au-delà. Pour vivre au-delà, voilà.
Si vous permettez juste une phrase avant de passer la parole à M. Sifras pour la conclusion, parce qu'il est tard. David, mais ça, très bien dit tout à l'heure, il y a une nature naturelle à Israël, et ceux qui sont à l'extérieur n'y comprennent rien. Il me permettra d'ajouter une phrase complémentaire, et ceux qui de l'extérieur comprennent, c'est qu'ils sont d'Israël.
Qu'est-ce que c'est? Pardon? Je n'ai pas compris.
Je demanderai aux personnes présentes de bien vouloir attendre encore quelques minutes avant de quitter la salle. Merci.
René, je peux dire un mot sur la souffrance des dents, prie, ça lui répondra plus. Merci.
Je voudrais très brièvement qu'on continue, puisqu'on me fait l'honneur de vous porter le dernier mot de ce séminaire absolument passionnant depuis dimanche. Je voudrais simplement rappeler un enseignement du Zohar que se trouve dans la liturgie ce paradis de Moukha de Yom Kippour. Dans le texte de Moukha de Yom Kippour, au moment de l'ouverture de l'arche sainte, le texte que l'on récite, vous le trouvez dans le rituel de prière, est le suivant: pardonne-nous, Seigneur, les choses que nous avons commises, en souvenir du sacrifice d'Isaac qui a eu lieu en ce moment-ci, c'est-à-dire le jour de Yom Kippour, à cette heure-ci, c'est-à-dire à l'heure de Mincha, et que les cendres de Isaac soient déposées devant toi et te rappellent l'acceptation du sacrifice. Et que tu puisses, en voyant les cendres d'Isaac, pardonner à ses fils. C'est donc un élément extrêmement important qui pourrait également verser au débat et que nous, auquel nous pourrions consacrer une soirée lors du prochain séminaire dont il est question. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que, d'une manière générale, le thème de la ligature d'Isaac est rattaché à Rosh Hashanah. Nous avons l'habitude de lire d'abord à la Torah le texte du sacrifice d'Isaac au moment du premier jour de Rosh Hashanah, et nous lisons dans la liturgie de Rosh Hashanah, Va'akedat Yitzhak Hayom le Baron, souviens-toi aujourd'hui de la ligature d'Isaac en faveur de ses descendants. Or, en fait, nous n'avons pas tenu compte dans cette première interprétation de la notion de durée. Car si l'ordre de Dieu a été donné à Abraham le jour de Rosh Hashanah, et c'est ce que rappelle ce texte de la liturgie, il a fallu 10 jours pour aller du début, du moment de l'ordre divin à Abraham jusqu'au moment de la Akeda. Abraham s'est levé de bon matin le lendemain, par conséquent, ils ont marché 3 jours, en première étape accompagnée du serviteur, puis une seconde étape intervient lorsque Abraham s'en va seul avec son fils, portant les bois et le feu. Alors que Isaac demande à Abraham où est l'agneau pour l'Holocauste, et à nouveau le texte dit tous deux partir pour une troisième étape, ce qui nous mène très exactement au 10 Tishri, et à ce moment-là, le texte dit il attacha son fils Isaac, et le Midrash interprète, c'est donc au moment de Mincha et Yom Kippour que la cérémonie de la Akeda, que l'acte de la Akeda a eu lieu. Je pense qu'il y a là également matière à réflexion. Je pense que tous les problèmes qui ont été posés durant toute cette semaine d'études l'ont été pour vous pousser à réfléchir, à étudier à nouveau ces thèmes que beaucoup d'entre vous, en toute bonne foi, croyez avoir déjà étudié profondément et les connaître. Je pense que c'est le mérite d'un tel séminaire, et nous pouvons remercier les organisateurs, remercier Manitou et remercier tous ceux qui ont participé, David Messa, et tous ceux qui ont participé à l'ensemble des explications ce soir et depuis dimanche, M. Solaire, de remercier tous ceux qui ont pris part à l'organisation de ce séminaire, d'avoir tout au long de cette semaine permis une recherche aussi intense, à un niveau aussi élevé, et je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, au prochain séminaire d'études, et je ne sais pas si les dates sont déjà prévues.
Début juillet.
Début juillet. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Un bilan de mise au point de ce que nous avons pu apprendre, et en particulier d'ailleurs s'il y a des points qui vous ont semblé, comme à moi d'ailleurs, en particulier personnellement assez obscurs hier soir, qu'on pourrait les reprendre ce matin sur les sources, et le temps qui resterait, nous avancerions dans le texte. Voilà donc ce que je crois. Je sais que long de la semaine, dans les cours du matin, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées et qui avaient été laissées en suspens. Et je vous avoue que je ne les ai pas notées, donc je ne les ai pas tellement en mémoire, mais vous me les rappelez le cas échéant. Certains d'entre vous sont venus à la fin du cours me poser un certain nombre de questions et j'avais dit nous reverrons ça dans la dernière séance. Vous voyez de quoi je veux parler, hein ? Bien, alors vous avez la parole. Alors, on va commencer par ordre. Le thème d'hier, c'était la confrontation entre l'identité de Bilam et l'identité de Abraham. Est-ce que vous avez des problèmes à ce sujet, et puis on passera d'un sujet à l'autre. C'est
savez, comme on dit d'habitude, si vous ne voulez pas poser la première question, commencez tout de suite par la deuxième. Nous
quel est le rôle joué par Eliezer dans la tradition juive? C'est les deux serviteurs qui accompagnent Abraham lors du sacrifice. Vous avez dit que c'était Eliezer à Ishmael. À Ishmael, oui. On sait qu'est-ce qu'il représente, mais Eliezer, je vois comment ça.
Il me semble que je l'ai dit assez rapidement, peut-être trop rapidement. C'est ce que nous appelons aujourd'hui dans l'histoire des religions le courant gnostique. Et je vous le dis vraiment très, très schématiquement. En particulier, le fait que la Torah nous indique qu'il est de Damas. Et que, enfin, il est connu que Damas était à l'époque un centre mystique. Je voudrais relier, me semble, une expression des évangiles que la révélation de saint Paul, enfin ce qu'il appelle une révélation, son éblouissement, disons, un peu la nuit de Pascal, se fait sur le chemin de Damas. Alors qu'il était sur le chemin de Damas, la vérité lui apparut, quelque chose de ce genre. Et c'est une indication à ce qu'on appelle la gnose en général. Et Ishmaël étant le monothéisme radical, cohérent, s'opposant au polythéisme, ce que j'appellerais l'expérience religieuse du monothéisme naturel, que s'il y a Dieu, il y en a un seul, c'est l'islam. Il n'y a pas de doute que l'islam est une religion en ce sens. Et je vais quand même bien préciser, je me réfère ici à une analyse du Kuzari, en réalité, comment dire, c'est une philosophie religieuse, beaucoup plus qu'une religion dans le sens biblique traditionnel, mais alors que la gnose est une toute autre perspective. La Torah nous montre très clairement, Ishmaël est le fils d'Abraham, pas d'Abraham, mais d'Abraham, oui, alors que Eliezer n'est que son disciple. C'est une relation par la connaissance qu'il y a entre Abraham et Eliezer. Et il est son disciple, son fils adoptif d'une certaine manière, puisqu'on nous le montre comme étant l'intendant, le gérant des biens d'Abraham. Lorsque il y a ce récit de la guerre dans laquelle Abraham intervient pour sauver Lot, le verset nous dit que Abraham a armé ses disciples. Et puis un des Midrashim nous montre que le nombre de disciples qu'il a armés équivaut à la valeur numérique du mot Eliezer et qu'il s'agit d'Eliezer. Bon, je dis ça vraiment en passant. Montrer, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de descendance possible par Ishmaël, alors il y a Eliezer. Et lorsque la promesse qu'il y aura fécondité à partir d'Abraham, et il s'agit d'Isaac, a été donnée avant la naissance d'Ishmaël. Entre-temps, il y a eu un fléchissement de la patience, si j'ose dire, et est arrivée cette catastrophe que Ishmaël est né. Je reviendrai peut-être sur ce point. Mais lorsque la promesse est renouvelée à Abraham, vous reverrez sur le texte, qu'il y a fécondité pour l'avenir, Abraham dit, c'est le mot que j'avais cité au tableau, un des cours précédents, tu me dis cela, fécondité pour l'avenir, vani, vanochi, holer, hariri, mais voilà que je suis sans descendance, ou ben meshek, ou ben beti, yoresh oti, et c'est l'intendant de ma maison qui finalement héritera de moi lorsqu'il y aura à hériter. Et il désigne Eliezer. Je reviens sur ce point. Il y a un enseignement du Zohar extrêmement important qui nous montre, c'est à la fin de la paracha de Vaera, que c'est par une sorte à la fois de fléchissement de l'attente, comme je viens de dire, et aussi d'une réaction de générosité de la part de Sarah, qu'est arrivé ce fait que Ishmaël apparaît dans cette histoire. Voici comment on pourrait le formuler. Depuis le début du départ de Our Kasdim, Abraham est l'objet de cette parole qui cherche à se faire entendre de lui. Tu seras fécond. J'espère avoir suffisamment expliqué dans les premiers cours en quoi il y a là vraiment une révélation, une découverte pour Abraham, et elle a pris du temps. Abraham se connaît comme étant pris, cela a été dit très clairement par David Messas hier soir, dans le déterminisme, dans le conditionnement naturel. Et dans le conditionnement naturel, il n'est pas fécond. Il est arrivé au point de stérilité de civilisation qui s'achève. Et donc, il y a un mérite considérable pour Abraham de croire en ce qui cherche à se faire entendre de lui. Et il y aura toute une assaise pour qu'Abraham puisse écouter cela et l'intégrer. Est-ce que je suis suffisamment clair? Abraham se connaît comme pris dans ce processus naturel d'une fin de civilisation. Et lui, ce même Abraham, s'entend dire, est l'objet de cette annonce. Tu auras un fils. Où y a-t-il là, d'une part, un mérite de croire, et d'autre part, quelque chose, une annonce, une annonciation, comme on pourrait dire d'autre part. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quelque chose de bizarre, enfin d'étrange. La Torah nous met un gros plan sur le mérite de la foi d'Abraham, et ça consiste à croire en quoi? Qu'un homme peut avoir un enfant. Où est le chidouche, enfin. Donc il faut revenir à ce que je disais précédemment. Abraham ne peut pas entendre cela parce qu'il se connaît comme Hariri. Hariri, ça veut dire c'est fini. Les engendrements sont arrêtés. On est arrivé en fin de civilisation. Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. C'est Valérie. Okay. Pas Giscard de son destin, mais le poète. Et alors, cette foi, Ve'emin Bashem Ha'ershevalot Tzedaka, cette foi de Abraham est vraiment un mérite. Et il faudra longtemps avant d'être assuré que c'est possible. Nous sommes ses descendants d'après cette expérience et d'après cette assaise. Mais je vais revenir sur ce sujet, sur le texte, je crois que c'est important. Mais je continue là-dessus. Il a fallu longtemps. Et vous verrez vous-même en relisant le récit, c'est plusieurs fois que la Torah nous rappelle, et Dieu dit à Abraham, est-ce que tu comprends, de mieux en mieux, tu auras une descendance. Tu seras fécond. C'est en fin de compte qu'Abraham intègre cela, alors il devient Abraham. Et fécond. Entre-temps, voilà ce qui s'est passé. Il y a une sorte de désespérance. Je ne voudrais pas employer le mot de désespérance, parce que si Abraham ou Sarah avaient désespéré, ils ne seraient pas les héros, les personnages de ce récit. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais une sorte de fléchissement de la patience, comme j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, Dieu a promis, mais voilà, ça ne vient pas. C'est donc que nous n'en sommes pas capables. Et alors, il faut essayer de sauver l'essentiel. Je vais d'abord faire le raisonnement de Sarah. Moi, je ne peux pas te donner cet enfant de la promesse. Ça dépend de Sarah. Mais c'est dommage que toi, tu disparaisses. Qu'au moins, ce que tu représentes, toi, reste dans le monde. Voici Agar, ma servante, prends-la, fais-lui un goût. Ouais, vous voyez à peu près le problème. Okay. Et il y a là-dedans la foi, une sorte renoncement pour soi, et en même temps d'une générosité colossale pour Agar, de la part de Sarah. Là, le verset est très clair. Et elle enfantera sur mes genoux, ça veut dire j'adopterai l'enfant. Et Sarah a fait tout ce qu'elle a pu pour adopter Ishmaël, mais, et en fin de compte elle le rejette. Pourquoi? Parce que l'enfant de Sarah, c'est celui qui rira au futur, alors que Ishmaël rit au présent. Et lorsque Sarah voit que Ishmaël rit au présent, alors c'est là qu'elle dit à Abraham, c'est parlé. C'est un autre aspect du problème, mais je reviens à l'analyse. C'est-à-dire, il y a une sorte de, à la fois de générosité et de renoncement par fléchissement de l'espérance, disons. Et les sociétés juives ont vécu cela. Peut-être sommes-nous stériles. Alors essayons de transmettre le relais de nos propres valeurs à une autre société pour qu'au moins cela ne disparaisse pas et qu'elle les fasse réussir. Vous comprenez? Et ce qui se passe souvent dans l'histoire de l'exil. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a une modestie énorme. Et cette chose inouïe qui est annoncée, et peut-être n'en sommes-nous pas capables, peut-être que nous ne sommes pas à la hauteur. Il y a, si j'ose dire, et à l'échelle individuelle, les Juifs éprouvent cette expérience. Il y a une espèce de refus pour pas trop se prendre au sérieux. Cette interpellation, Dieu me dit c'est toi, quoi, c'est moi, je vais me prendre au sérieux. Et alors, pour ne pas se prendre au sérieux, alors on doute de soi. Je ne sais pas si je suis arrivé à il y a une espèce de vertige. Comment la voix de l'absolu m'a dit c'est toi l'absolu, mais c'est trop énorme. C'est pas, comment dire banalement, c'est trop beau pour être vrai. Alors peut-être c'est pas vrai. Et vous voyez comment le doute arrive là, mais corollairement, il n'y a pas de doute, une énorme générosité de la part de Sarah. En termes d'analyse historique, la fécondité qui est promise à Abraham, c'est du dedans de sa propre équation d'identité sociale. Sarah, c'est sa société à lui, c'est son nationalisme. Sarah, ma princesse, vous comprenez? Et alors, elle est stérile, apparemment. Alors, voilà comment se réalise cette générosité. Il y a une culture qui pourrait être féconde, où il n'est pas devenu évident qu'elle est stérile comme nous. La société égyptienne. Va engendrer ton fils avec la société égyptienne. Il y a une disponibilité. Je parle de l'Égypte du temps d'Abraham. Okay? Vous comprenez? Il va s'avérer que la société égyptienne, elle, est vraiment stérile. Au temps de Joseph. Le fait que la Torah nous dise que le mari de la femme de Potiphar, donc Potiphar, était eunuque, montre bien cela. Il y a une matrice disponible, mais il n'y a pas de fécondité. Il n'y a pas de possibilité de fécondité. Alors on va convoquer Joseph, féconde-moi. Donc ça, c'est l'histoire de ce moment-là. Et il y a un Zohar extraordinaire. Si vous voulez qu'on l'étudie sur texte, je le fais simplement chercher à la bibliothèque. Est-ce qu'il y a un Zohar dans la bibliothèque? Ah, je ne sais pas d'ailleurs. Oui? Il y a un Zohar dans la bibliothèque? Non? Oui? Bon, peu importe, je vais vous le dire de mémoire. Et il dit, malheur à ce jour, voilà comment dit le Zohar, malheur à ce jour où Sarah a dit à Abraham, donc je reviens sur la citation elle-même, puisque moi je ne peux pas apprendre à Agar ma servante. Et malheur à ce jour où Ishmaël étant né, Abraham intervient pour lui et dit, Lou Ishmaël Ichiel Lefanecha. Quand, après la naissance d'Ishmaël, Dieu continue à dire à Abraham, c'est pas de ça que je te parlais, je te parle de la promesse d'avenir, et ça viendra. Et alors, entre-temps, il y a Ishmaël, et Abraham dit, qu'est-ce que je vais faire de lui? Et Abraham insiste, que lui aussi vive devant toi. Et Dieu lui répond, et en ce qui concerne Ishmaël, je t'ai entendu, je lui donnerai sa provenance. Alors le Zohar revient là-dessus, il dit deux fois malheur. Malheur, le jour où Sarah a provoqué la naissance d'Ishmaël, et malheur du jour où, après la naissance d'Ishmaël, après que Isaac soit né, il y a cette rivalité entre Ishmaël et Isaac, de par la complaisance d'Abraham lui-même. Vous entendez, je pense par vous-même, à tous les niveaux, à quel point tout ceci est vécu, et non pas du tout du symbole, je pense que vous comprenez. Même si je suis beaucoup plus familier au registre historique, mais les autres registres aussi sont au niveau de la réalité. Alors l'objection dans le Zohar est la suivante. On aurait pu croire que vraiment c'était un malheur qu'Ishmaël naisse, si Isaac n'était pas né. Mais une fois qu'Isaac est né, et que cette promesse donnée à Abraham s'est réalisée, ben c'est pas grave qu'Ishmaël soit né. Non, il y a deux malheurs. Et alors le Zohar développe tout cela dans une vision de l'histoire très précise et très gigantesque, et nous dit, voilà pourquoi, et la chose importante c'est ceci. Ce Zohar est mis par écrit au temps de la Mishnah. Au temps de la Mishnah, l'islam n'existait pas encore. Au temps de la Mishnah, c'est pas les Arabes qui occupaient Eretz Israël, c'était les Romains. Hein? Et alors, les Tanaïm de la Mishnah n'étaient pas préoccupés de dire à la fin des temps, on aura des problèmes avec les Romains pour Eretz Israël. Ils disent à la fin des temps, on aura des problèmes avec Ishmaël pour Eretz Israël. Hein? Et il dit, viendra le temps quand Israël voudra revenir chez lui. C'est l'obstacle sera Ishmaël. Et les grandes guerres se déclencheront, etc., etc. C'est écrit dans le Zohar comme ça. Bon, je ne vous donne pas de date précise pour la dernière des guerres, mais c'est aussi écrit là-bas. Enfin, pour ceux qui lisent. Et là, voilà donc quelle a été. Et vous voyez quelle est la méthode du Midrash, de nous montrer à partir des événements qui sont en germe une espèce d'élargissement du sujet pour nous montrer les conséquences. Je reviens donc au point central de l'analyse. Il y a un fléchissement de la patience. Alors, entre-temps, l'approximation apparaît. Ishmaël est bien là comme une approximation d'Isaac. Il y a une relation au rire aussi dans ce contexte de la sélection d'identité, de la séparation entre Ishmaël et Isaac. Et c'est ce que je viens de citer tout à l'heure. Voici le verset. Vatere Sarah et Ben Agar Amisrit Metsachek. Et Sarah a vu que le fils que Agar avait donné à Abraham, et le verset ne dit pas le fils d'Abraham, le fils que Agar avait donné à Abraham, elle l'a vu Metsachek, en train de rire. Et c'est là qu'elle dit, c'est par le d'Isaac, Kilo Irash, Imbeni, Imitzrak, parce qu'il n'héritera pas avec mon fils, avec Itzrak, qui lui est un rire au pluriel. Bon, je ne veux pas étudier ce thème-là maintenant. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà étudié. Ce que dit le Midrash à ce sujet, qu'est-ce qu'il y avait dans ce rire d'Ishmaël à ce moment-là? Et il dit, voilà, les pires des abominations. Ce rire, c'est le rire de l'assassin. L'autre dit, ce rire, c'est le rire de l'idolâtre. Le troisième dit, ce rire, c'est le rire de la débauche. Et une des trois grandes fautes. Shfichut Damim, Gilu Arayot, et Avodazara. Et Rabbi Shimon Bar Yochai qui intervient et qui dit, quoi, un enfant comme ça dans la maison d'Abraham, de quoi vous parlez, vous, mes collègues? Et tu dis que le rire, et après tout, ce n'était qu'un enfant, mais je reprends la méthode du Midrash. Et voilà ce que Sarah a vu en germe dans cette identité. Et comment comprendre cela? Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans ce Midrash, Khalila, Dieu préserve de vous dire que qu'est-ce que vous pouvez dire qu'il y ait un enfant pareil dans la maison de ce tzadik, c'est-à-dire Abraham. De qui vous parlez? Vous parlez du fils d'Abraham. Alors, c'est de vous expliquer le problème, très simplement. Deux principes. Ces rabbins du Midrash ont raison. Le fait de rire au présent, ça veut dire qu'on est capable et de l'idolâtrie et du meurtre et de la débauche. Parce que ça veut dire le fait de rire au présent. Ça veut dire le fait d'être embrayé sur la jouissance du monde tel qu'il est. C'est la définition du rachat, du contraire du tzaddik. Est-ce que c'est clair? Vous connaissez le psaume messianique? Az imale srotpinu. Az yomru bagoyim irgir Hashem narasot imen. Quand Beshu Hashem et Tuatzion. La Gemara dit, dans la Gemara de Brachot, un enseignement de Rish Lakish, Asur le Adam Sheimale Srokpi Varalamazé. Il est interdit à l'homme de rire et que ça, d'emplir sa bouche de rire dans ce monde-ci. Qu'est-ce à dire ce monde-ci? Tout le temps de l'exil. Et c'est bien clair. La différence entre Olamazé et Yemot HaMashiach. La fin de Olamazé, c'est Yemot HaMashiach. Le temps de ce monde-ci, j'élargis un peu cette indication. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est la définition même du rire de la jouissance. Ce rire de la jouissance, c'est la définition de la capacité de la folle. Et pouvoir être, pouvoir jouir, rire du monde tel qu'il est, ça veut dire qu'on est un homme du monde, si j'ose dire, de ce monde-là. Ça veut dire qu'on est une crapule, parce que le monde, l'état du monde actuel, ne satisfait que les crapules. Vous voyez à peu près le problème. Okay. Alors c'est ça que Sarah voit. Elle voit cet enfant rire au présent, elle dit c'est par le. Ça, c'est le futur idolâtre, ça, c'est le futur assassin, ça, c'est le futur débauché. Okay. Et alors Rabbi Shimon Ben-Yochai dit de qui tu parles? De l'enfant qui est dans la maison de ce juste qui est Abraham. Alors là, j'arrive au deuxième principe. Qu'est-ce que veut nous dire de toute façon, l'histoire a montré cela, que Ishmaël est devenu. Et c'était tous les longs siècles de la culture d'Ishmaël pré-islamique que c'était un païen, un pillard. Tout ça là-bas. L'islam est arrivé. Voilà ce que veut nous dire Rabbi Shimon Ben-Yochai en s'opposant apparemment aux trois enseignements précédents, en disant « Quand cet enfant est dans la maison de son père, c'est pas ça le rire. » Et il a son explication. Mais et quand cet enfant n'est pas dans la maison de son père, voilà quel est son rire. Et qu'est-ce que ça veut dire être dans la maison de son père pour cet enfant? Être devenu musulman, c'est-à-dire avoir accepté la pédagogie de sa propre ascèse religieuse. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, c'est quand Ishmaël entre dans l'islam, alors que Rabbi Shimon Ben-Yochai nous dit, là il n'est plus débauché, son rire a un autre sens, lequel c'est le rire de la querelle sur l'héritage. Le rire de Nasser, dont je vous ai parlé. Mais est-ce que c'est bien clair? Ben, malheureusement, j'ajouterais, moi, et bien qu'il soit rentré dans l'islam, il est resté comme ça. Gilou Arayot, Shfichut Damim, Barbarazara, sauf. Bon, mais parlons, si vous voulez, pour ce dont parle Rabbi Shimon Ben-Yochai, du musulman exemplaire, et ça existe. Le musulman exemplaire, c'est Ishmaël Tzadik, et ça existe. Je pense que c'est clair. Vous avez compris ce qu'a dit Mila. Vraiment, Ishmaël à l'état brut, le rire au présent, c'est ça. C'est l'assassin, c'est le débauché, c'est l'idolâtre. Le superstitieux, mais ça revient au même. Okay? C'est la même chose.
Il a prédit la teshuva pour Ishmaël.
Non, c'est la Torah qui a prédit la teshuva. Et ça, je vais vous en parler après. Mais Rabbi Shimon Ben-Yochai dit, quand cet enfant est dans la maison de son père, alors vous ne pouvez pas dire du fils d'Abraham que c'est cette crapule en puissance. Okay? Je vais m'excuser des termes, mais je suis très modéré. L'histoire a montré cela. L'histoire a montré qu'est-ce que ça veut dire, cet enfant dans la maison de son père. C'est l'islam. Et lorsque l'islam est réussi, eh bien alors il y a le saint de la religion musulmane. Et ça existe et c'est authentique, bien que ce soit rare, mais c'est rare partout, les saints. Est-ce que c'est bien clair? Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que ce rire? Quand le Ishmaël musulman rit, alors là, c'est l'autre midrash, celui du deuxième thème, c'est le rire de la contestation, le rire de la Paris. Quand Isaac apparaît, Ishmaël se met à rire. Vous savez, Soler avait fait allusion à ce thème, peut-être une fois on l'étudiera pour nous-mêmes, pas en séminaire comme ça, salle des pas perdus là-bas, mais les sauvés, c'est les pas perdus. Mais comme ça, en séminaire sur texte, il y a sept rires différents dans cette histoire. Voilà, Sauvar, c'est Machot. Il y a sept réalités du rire, ça vaut la peine de les étudier. Mais je reviens donc au problème, c'est ce rire moqueur de la prétention d'Isaac à être le fils d'Abraham, c'est la contestation d'Ishmaël contre Israël. Alors là, dans le contenu de ce rire, c'est le rire de la dérision. Vous rappelez, jusqu'à ce que nous vivons encore ces jours-ci, on ne sait pas ce qui va se passer demain après-demain, ça avait commencé quand Sadat est arrivé à Jérusalem, l'attitude d'Ishmaël vis-à-vis d'Israël, c'était de dire, mais tu n'existes pas. Je ne peux pas te parler, tu n'existes pas. Oui, tu dis que tu existes, mais tu es ridicule, tu n'existes pas. Vous vous rappelez de cela? Bon, je ne sais pas ce qui va se passer vraiment demain après-demain. De toutes les façons, tout ce que j'attends personnellement, c'est que je puisse quand même rentrer en Israël dimanche. Et je referme la parenthèse. Et alors là, on ne sait pas ce qui peut se passer, vous savez, d'un moment à l'autre. Mais là, en tout cas, pour revenir au problème, c'est qu'il fallait dévoiler cela, et la Torah le fait très clairement, l'importance de ce cheminement qui a pris du temps et de l'effort pour qu'Abraham devienne Abraham, c'est-à-dire qu'il soit capable de croire ce que Dieu lui dit. Est-ce que c'est clair? Jusque-là, il n'entend que le Dieu d'Abraham. J'ai créé un monde avec des lois. Et d'après ces lois, quand une civilisation est finie, elle est finie. Ça, c'est Abraham. Et ce même homme entend déjà le Dieu d'Abraham. Et ceci dit, au-delà de tout cela, il y a un Yitzhak possible. Et pour que Abraham devienne Abraham, le père d'Yitzhak, il faut intégrer tout cet effort du mérite de la foi d'Abraham. Il est dit d'Abraham, « Ve'emi Bashem » et il crut en Hachem, jusque-là il croyait en Elohim. Et en tant que croyant d'Elohim, la nature dans son fonctionnement, eh bien il sait très bien que ce serait un blasphème de supposer que Dieu va changer sa loi. Quand une civilisation est morte, elle est morte. Est-ce que c'est clair? Et voilà qu'on lui demande de changer de théologie, d'adopter un Nouveau Testament, si j'ose dire, de croire en une chose inouïe, de croire en une chose qui est une folie pour l'ancien croyant, des religions naturelles. Et c'est ce que dit le verset. « Ve'emin Bashem » Abraham a cru en Hachem, c'est-à-dire qu'on peut dépasser l'impossibilité naturelle, que cet enfant du miracle peut naître. Et alors là, je vais étudier avec vous, je ne sais pas si on l'a déjà fait dans ces séminaires, une controverse entre Nachmanide et Rashi. Ça nous donnera d'ailleurs un exemple d'une méthode, des différences d'opinion des commentateurs. Et vous verrez qu'il n'y a jamais contradiction entre les grands commentateurs. Entre les petits, oui, mais pas entre les grands. Et Nachmanide s'oppose absolument à la lecture de Rashi. Et nous verrons en quoi Rashi et Nachmanide ont raison. Nous allons avoir un échantillonnage maintenant. Simplement, il me faut un micro de l'autre. Tu veux descendre au bureau de Madame Nakash, okay? Il doit y avoir sur un des deux bureaux le micro de l'autre sur Bereshit. Hein? On va t'attendre, mais qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Alors attends une minute avant que j'oublie juste cette phrase. Je voudrais vous montrer tout à l'heure sur le texte qu'effectivement il a fallu longtemps pour qu'Abraham réussisse à devenir Abraham. Sur ce point déjà de cette promesse, tu auras un fils et il s'appellera Isaac. Entre-temps, il y a eu fléchissement de la patience, catastrophe, et nous est apparue une approximation qui s'est érigée en rivalité. Bon. Vous comprenez ce qui s'est passé? Quel est le retour? Ismaël serait venu d'un double mouvement, c'est-à-dire à la fois de ce que vous appelez le fléchissement de la patience, de la générosité, oui. Parce que par rapport à ce cheminement,
on adopte. Donc,
Zara
a pris l'engagement d'adopter.
Ah, ça, sans problème.
Or, est-ce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe, finalement, c'est-à-dire le fait qu'elle meurt, comme l'échec de cette adoption, également lié au fait qu'elle ne peut pas assister, en fait, à ce qu'est devenu Yitzhak.
Yitzhak ou Ishmael?
Yitzhak devient autre, après la cadavre.
Je dirais que ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire, ça j'en ai parlé un peu hier soir après la question de Solaire. Et première chose, la disparition de Sarah en tant que Sarah, c'est ça. C'est le changement d'identité d'Yitzhak, c'est la même chose. Ça c'est la même chose. Yitzhak devenu ce qu'il est devenu, ligoté, c'est la mort de Sarah. Bon, c'est clair.
C'est pas évident. C'est clair, mais je veux dire que ce soit ce prix-là, c'est pas...
Et alors, je reprends l'analyse pour éclairer ce point. Deuxièmement, La relation entre Sarah et Ishmael, c'est un autre problème. C'est pas la même chose. Je commence par le deuxième. Sarah le dit de façon absolue. Oulai ibane mimena. Prends à garde. Et peut-être que je ferai fils grâce à elle. Okay? Regardez cette générosité. La société juive se disant à un certain moment, bon, moi je suis stérile, je n'ai plus de sève, il y a Cuba. Alors on va essayer de faire un enfant avec Cuba. Avec nous, les juifs, on ne peut plus. Ben, il y a Cuba, ou il y a je ne sais pas quoi, ou il y a Che Guevara. Quelle est la mode aujourd'hui? C'est quoi? Les maoïstes, c'est fini, il n'y a plus autre chose. Okay? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, la jeunesse juive devenant maoïste. Qu'est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. C'est Sarah disant à Abraham, prends Agar, moi je peux pas. Moi en tant que juge, je peux pas, mais peut-être en tant que chinois, je pourrais. Je pense que c'est bien clair. Et alors, cette générosité, et j'essaie de vous expliquer aussi, vous savez que j'étais militant des mouvements des étudiants juifs en France pendant des années, je connais par l'expérience ces mouvements-là. Je peux vous dire à quel point ces jeunes juifs sont sincères et de bonne foi et généreux, okay? En disant au nom du judaïsme, je me mets au service du marxisme chinois. Oui, mais c'est exactement ça. C'est Sarah disant à Abraham, prends Agar parce que moi je suis stérile. Est-ce que c'est clair?
C'est aussi Moïse et Midian.
Avec Midian, vous vous rappelez de cela? Oui. Bien.
Pour ce qui concerne la pose, la position d'Eliezer, quelle était la position vis-à-vis d'Abraham? Vous avez parlé de gnose.
Oui. La gnose, c'est pas cachère. La réponse est claire. Mais même passer à l'eau au sel. Non, c'est la première chose que vous avez dite. Comment? J'ai dit, vous avez entendu ma réponse. J'ai pas employé ce mot-là, mais ça revient au même. C'est-à-dire, où serait ici la faute? C'est ce fléchissement de la patience. Mais vous voyez quelle est la méthode du Midrash? Le Midrash n'impute pas du tout cette faute à Sarah. Elle nous l'impute à nous quand ça nous arrive. Comprenez? Mais Sarah, c'est la matrice de cela, de nous, de notre vie. C'est nous qui faisons ces fautes-là. Est-ce que c'est clair?
Est-ce qu'il en est de même pour Esav par rapport à Ishmael? C'est-à-dire qu'il n'est pas dit dans le texte que Esav a ri, mais cependant, le moral par exemple, si je le vois, en disant que Esav fait chagrin.
Non, c'est un tout autre. Non, c'est pas la peine de répéter. J'ai un tout autre chapitre. Rien à voir. Rien à voir. Tout à fait autre chose. Et la gamatria de Shalom de Esav n'a rien à voir avec le rire d'Ishmael. Tout à fait autre chose. Mélangez pas les choses. Hein. Vous voyez quelle est la difficulté de ces études. Apprenez une chose vraiment de façon irréversible. Ces textes se prennent à la lettre. Et on ne peut pas faire par soi-même des analogies tant qu'on ne les a pas tous lus. Vous comprenez ce que je veux dire? Imaginez le jeu de l'ego. Tant que vous avez un élément qui restait dehors, c'est qu'aucun n'est à sa place. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense que c'est clair du point de vue de la méthode. À partir du moment où vous avez tout appris et que vous arrive l'intuition d'une correspondance, d'abord il faut la vérifier, si ça ne contredit rien de ce qu'il y a d'écrit, et la bibliothèque juive traditionnelle est énorme, je ne sais pas si... Rendez compte que il faut d'abord vérifier que ça ne contredit rien d'autre. Vous avez vu l'incident d'hier soir, parce que c'était contradictoire. Avec Rachi, et qui c'est Rachi? Mais, vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, faites bien attention à cela, qu'il faut penser l'analogie en hébreu. Parce que les correspondances analogiques dans les langues qui traduisent l'hébreu n'ont pas du tout les mêmes constellations, les mêmes structures. Vous comprenez? Il faut le penser en hébreu. Et ça doit... se suivre à la lettre, à la loupe, au microscope. Hein. C'est un livre qui se prend au pied de la lettre, il faut bien comprendre. Donc là, je referme cette parenthèse.
La citation du Zohar, quelle est la référence?
C'est à la fin, Zohar, à la fin de la paracha de Vaera. Ken. Non, j'en dis, madame avait posé une question avant. Oui. De juste. Expliquez ça, j'ai pas dit ça comme ça, je comprends pas ce que vous voulez dire. Oui, que Isaac est fils de Sarah. Que comme nous sommes des fils d'Ève, le fait qu'un homme soit un homme, ça vient de Ève, ça vient pas de Adam. Vous comprenez ce que je veux dire?
Bon.
Voilà, très bien. Écoutez, chaque identité humaine est au masculin et au féminin. Israël est au masculin et au féminin. Israël, le peuple. Knesset Israël, l'assemblée d'Israël. Il y a l'être qui est en cours d'histoire, dans cette histoire des engendrements d'Israël. Cet être-là, le fils. Et ce fils, ça peut être une fille, mais il est dans la catégorie du masculin. La matrice qu'il engendre, la société comme telle, c'est cette même identité au féminin. Chaque fois que vous trouvez le patriarche et la matriarche, je ne sais pas comment dire. Du point de vue typologique, et je ne dis pas symbolique, parce que nous ne sommes pas des symboles, c'est nous ces gens-là. Okay, du point de vue typologique, la société d'Israël, c'est Sarah. Le peuple d'Israël,